Cette soirée a été donnée en écho à la parution de L'idée de science au XIXe siècle, 8 soirées de lecture à la bibliothèque des amis de l'instruction du 3e arrondissement. Ce livre a été publié sous la direction de Jacqueline Feldman aux éditions de l'Harmattan en 2006. L'auteur avait organisé en 2003-2004 le cycle de soirées consacré à la BAI aux sciences au XIXe siècle. Elle a rassemblé les transcriptions des diverses interventions dans ce livre et elle les présente. Daniel Reichweg en lit de larges extraits augmentés de textes complémentaires introduits par Jacqueline Feldman. Étant donné le caractère très particulier de cette soirée, comportant de grands moments de conversation à bâton rompu, où toutes les interventions ne sont pas très audibles, nous avons choisi de limiter la mise en ligne à la lecture de 2 textes, la plupart des autres pouvant être retrouvés dans les enregistrements de la saison 2003-2004, sous les titres suivants « La science triomphante »,« Auguste Comte, la science comme base spirituelle de l'ordre social », Condorcet, la croyance dans la science et le progrès, Lettres et sciences, la bifurcation. Les 2 textes présents ici, élus par Daniel Reichweg, sont les premiers du livre. Un préambule en forme de fable, emprunté à Pierre Lachambeaudie, 1807-1872, puis l'introduction de Jacqueline Feldman.
Le savoir et le savoir-faire. Choix de fable à l'usage des écoles, par M. Pierre Lachambeaudie, Paris de la Grave, 1887. Au grenier du savoir, grimpa le savoir-faire. Et quoi, toujours obscur et toujours mal vêtu, nommant votre indigence et courage et vertu, des poétiques cieux vous parcourez la sphère. Pour la réalité, croyez-moi, délaissez le monde vaporeux des rêves insensés, venez d'or et de fleurs, parsemons l'existence. Le savoir descendit sans faire résistance. Entre nous, Dupin sait qu'il se lassait un peu. Les voilà partis, l'œil en feu, l'un de calculs remplis de longues pages, l'autre contemple les nuages. Ami, dit savoir-faire, allons flatter les grands. Ici-bas, le bonheur est pour les intrigants, et nul profit n'arrive à qui ne sollicite. Pour acquérir l'argent et la célébrité, empruntons les 100 voies de la publicité. À cela tient la réussite. Quoi ? Perdre mon repos, mon temps, ma dignité, ma solitude bien-aimée, à poursuivre de l'or et de la renommée, répondit le savoir, de vos offres merci. À tous les biens à qui ainsi ma pauvreté je préfère. Alors, de son côté, chacun d'eux s'en alla. Et depuis ce jour-là, rarement le savoir sut le savoir. 1814. Pierre Lachambeaudie. Quand j'ai reçu le bouquin, au lieu de tomber sur la table des matières, je tombe sur le savoir et le savoir-faire. Au grenier du savoir, grimpa le savoir-faire. Et je me dis, Jacqueline, ça ? Mais ça se lit. Au XIXe siècle, on faisait beaucoup d'instruction par l'oral. On utilisait par exemple les bibliothèques pour apprendre à lire. C'était les outils, en particulier les livres de sciences. Et donc là, c'est une femme, avec un petit message à la fin, rarement le savoir suivi de savoir-faire. Je ne sais pas s'il en a fait une critique, ou s'il approuve M. Lachambeaudie. Dans son style, c'est un petit peu compliqué à savoir. Nous, on aura envie de dire, allez, lissez-vous.
Alors, quand je suis tombée sur cette femme, je la connaissais déjà avant d'arriver ici, et c'est quand j'étais au lycée, à un moment, on avait une camarade qui dessinait très bien. Et une fois, elle s'est amusée à toutes mes dessins. Et moi, comme j'étais bonne en main, elle m'a croqué dans un grenier, avec une longue robe d'astronome, comme ça, et en train de regarder dans une lunette. Donc là, je tombe, le grenier.
Après cette fable en forme d'exergue, le savoir et le savoir-faire, l'introduction va nous définir l'unité de lieu de cette science triomphante du 19e siècle. Et évidemment, la parole est à Jacqueline Feldman.
Je sens vraiment un auteur.
Mais... Introduction. L'enseigne dehors apparaît terne par rapport aux lumières fracassantes des commerces alentours. J'ai pu passer des années devant en autobus le plus souvent, le 96, mais aussi à pied, sans la remarquer. Elle indique « Bibliothèque des amis de l'instruction du 3e arrondissement, subventionnée par la ville de Paris, association fondée pour le prêt des livres en 1861. Et c'est un lieu discret, modeste. Un jour, quelqu'un vous en parle, vous y introduit. On ouvre une large porte, gris vert, à côté de l'entrée principale de l'hôtel de Gourges qui conduit à l'école. Aux heures de sortie des élèves, il faut fendre pour accéder à la bibliothèque, un grouillement d'élèves et de parents. On ouvre la porte et on se trouve transporté et, dans un monde magique. Des livres partout. Ils tapissent les murs de bas en haut, de long en large. Leur reliure nous offre des couleurs chaleureuses et variées. Pour peu qu'on soit amis des livres, donc des bibliothèques, c'est cool. Au cœur de Paris, on vient d'effectuer un voyage dans le temps. On se retrouve en plein 19e siècle. La nostalgie s'éveille. C'est des commencements, plein d'espérance, de vision, de foi. Foi dans le progrès de l'humanité, foi dans le développement de l'instruction. Les deux ne pouvant manquer d'aller de pair. Les catalogues nous font participer au choix des politiques d'acquisition qui ont varié dans le temps. Les fiches manuscrites, bien classées, ils pilotent à travers les cotes, reflétant les divers rangements, par date d'acquisition, par format. Un plan des rayons nous conduit enfin à l'emplacement du livre recherché, un véritable jeu de piste. Quel bonheur, alors, de trouver ce vieil exemplaire d'un classique. Georges Sand, ou encore les œuvres complètes d'Arago, livre rare, ce qui évitera d'aller dans une bibliothèque universitaire spécialisée. Ou ces revues d'époque qui nous la font si bien revivre. Quelle déception aussi quand on est enfin arrivé à la place du livre qu'on cherchait depuis longtemps. Et voilà qu'elle est vide. Le livre a disparu. Et l'on maudit la confiance trop grande qui a été accordée au lecteur. Le lieu a les dimensions modestes de ses commencements. Un rez-de-chaussée, un étage, un sous-sol aussi avec voûte, travaillé par l'humidité. Les deux pièces principales offrent des tables de travail dans leur milieu. Avec astuce, on a caché les éléments modernes indispensables, l'ordinateur, l'imprimante, derrière des étagères. Le lieu est un peu sombre, j'apprendrai que c'est par souci d'authenticité, pour conserver cette atmosphère 19e siècle. Dans sa conférence, Jean-Marc Lévy-Leblond nous rappellera que très longtemps, on a vécu à la lumière des flammes tremblantes. Voilà justement que je trouve au hasard de ce butinage que permettent ces rangées de livres classés, on ne sait d'abord trop comment, ce livre sur l'électricité dans la maison, dont l'auteur est Eugène Hospitalier, qui date de 1885, le temps de mes grands-parents, et qui commence de la sorte. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour reconnaître les immenses avantages que présenterait une distribution d'électricité à domicile. Et l'on peut espérer qu'avant peu, cette distribution en voie de réalisation partielle à New York sera un fait accompli dans un certain nombre de grandes villes de l'Europe initiatrice. Progrès. Car si le 18e siècle a été celui des Lumières, prise dans le sens intellectuel, le 19e siècle est celui qui introduit la lumière matérielle. Celle de l'électricité d'aujourd'hui. Nous voilà donc en mesure de revivre un peu l'époque où n'existait ni l'électricité domestique, ni ces immenses bibliothèques dans des tours générant des vents nouveaux, je parle au sens propre. Il s'agit de vents physiques auxquels on a attribué des noms, contre lesquels il faut se battre pour y accéder. Mais un endroit où l'on peut trouver de tout, sans avoir à parcourir des salles, voire des bâtiments entiers, pour accéder aux différentes spécialités. Avec un des avantages de la modestie et de l'anonymat, le ravissement de trouver quelques trésors dont on ne soupçonnait pas l'existence, l'auteur ayant disparu des petits Larousse et autres revers actuels. Chaque fois que je pénètre là, me revient cette phrase qui réagit contre les démesures des temps présents. Small. Voilà donc, nous sommes dans le lieu de la science triomphant.
Alors, en fait, comme Daniel l'a dit, cette bibliothèque a été créée en 1861, et ça n'est donc pas un hasard si la dernière illustration est une tête de la comète de 1861, de Flammarion, ça tombait bien.